bonsoir à tous. Morgane Guiriec en direct de la capitale américaine, mardi 25 juin 2019. Le Monde aujourd'hui, édition de 17h30, temps universel. Au sommaire ce soir, Mauritanie, descente de la police au siège de deux candidats d'opposition à l'élection présidentielle. Au Burkina Faso, deux gendarmes ont été tués dans une nouvelle attaque à Arbinda, dans le nord du pays. Plus de 400 migrants secourus la semaine dernière dans le désert au Niger. Conférence à Bahreïn sur le volet économique du futur plan américain visant à résoudre le conflit israélo-palestinien. Nous poursuivrons notre série sur les migrants africains qui traversent l'Amérique latine pour rejoindre les États-Unis. Ne ratez pas le journal de la CAN, mais d'abord les infos. En Mauritanie, la police a effectué hier soir une descente au siège de deux candidats d'opposition à l'élection présidentielle. Ces derniers contestent la victoire du candidat du pouvoir. On fait le point avec Michel Joseph.
Des heurts ont eu lieu hier soir entre policiers et militants de l'opposition aux abords des sièges des partis de Biramda Abeid et de Kan Hamidou Baba. Des barrages de pierres et des pneus brûlés étaient encore visibles aux alentours. Biramda Abeid a dénoncé le déploiement de forces de sécurité dans plusieurs grandes villes, y voyant un état de siège qui ne dit pas son nom. Les Mauritaniens ont voté samedi avec un taux de participation de plus de 62%. Quatre opposants rejettent les résultats provisoires, donnant la victoire au premier tour à l'ancien chef d'état-major, Mohamed Cheikh El Ghazouani. Ils ont annoncé leur intention de les contester par tous les moyens légaux et de manifester pacifiquement. Ils réclament la publication des résultats bureau par bureau. D'après la Commission nationale électorale indépendante, M. Ghazouani a obtenu 52,01% des suffrages devant le militant anti-esclavagiste Biramda Abeid, 18,58%, l'ex-premier ministre Sidi Mohamed Ould Babacar, 17,87%, et le journaliste Baba Hamidou Kan, 8,71%.
Deux gendarmes burkinabés ont été tués et un grièvement blessé après une attaque hier à Arbinda. Samedi, 15 personnes ont péri dans deux attaques séparées dans le nord du pays. Le point avec Bagassi Koura.
Selon l'état-major de la gendarmerie, ce lundi, une équipe était en mission de dépannage d'un convoi d'escorte de vivres et d'eau lorsqu'il a été la cible de terroristes sur le tronçon Gorgadié-Arbinda. Dans son communiqué, la gendarmerie précise que l'un des assaillants a été abattu. Arbinda a enregistré une série d'attaques meurtrières ces derniers mois. Le ministre de la Défense, Chérif Sy, a annoncé hier que 15 personnes avaient été tuées dans deux attaques, dont 13 à Sago et 2 à Toué-Kodogo, dans le nord du pays. Trois boutiques et une dizaine de motocyclistes ont également été incendiées. Le 10 juin, 19 personnes avaient été tuées lors d'un raid opéré par plusieurs dizaines d'individus, alors que début avril, 62 personnes avaient été tuées lors d'attaques djihadistes suivies d'affrontements intercommunautaires.
Près de 20 000 migrants africains en route pour l'Europe, principalement via la Libye, ont été secourus depuis 2016 dans le désert nigérien. C'est le chiffre donné par l'Organisation internationale pour les migrations. Dans de nombreux cas, les migrants périssent de faim et surtout de soif après avoir été abandonnés par les passeurs alors qu'ils s'égarent dans le désert ou sont victimes d'une panne de voiture. Nigeria, un journaliste connu pour ses critiques des compagnies pétrolières et accusé de terrorisme, sabotage économique et fraude, doit être placé en liberté provisoire, c'est ce qu'ont indiqué des sources judiciaires. Jones Abiri, basé dans l'état de Bayelsa, riche en pétrole, avait été arrêté et présenté à un tribunal d'Abuja fin mai. Il avait alors catégoriquement nié ses accusations. Human Rights Watch accuse les groupes séparatistes dans les régions anglophones du Cameroun de pratiquer la torture et d'autres exactions sur des civils. Human Rights Watch affirme avoir visionné une vidéo, filmée mi-mai, montrant des séparatistes armés torturant un homme dans une école abandonnée dans la région du nord-ouest du Cameroun. République démocratique du Congo, 7 personnes ont été tuées en 3 jours de violence dans l'est du pays. Lundi, 3 personnes qui roulaient à moto sur la route Mbao-Kamango sont tombées sur des rebelles ADF, a déclaré l'administrateur du territoire de Beni dans le nord Kivu. Par ailleurs, dans le sud Kivu, on compte 4 morts et 4 blessés dans des affrontements entre les communautés Bembe, Nyundu, Bafouliru contre les Banyamulenge dans le haut plateau de Mine Tembwe, dans le territoire de Fizi. En Éthiopie, les responsables militaires et religieux ont rendu hommage au chef d'état-major de l'armée, condamnant son assassinat et ceux de responsables régionaux. Les précisions de John Lindon.
Le chef du gouvernement éthiopien a essuyé ses larmes avec un mouchoir blanc durant cette cérémonie à Addis Abeba, en l'honneur du chef d'état-major Séaré Mekonnen et d'un général à la retraite. Tous les deux ont été tués samedi. Ces assassinats n'ont pas été commis par des forces étrangères, mais par notre propre armée, et cela est encore plus douloureux, a déclaré Aboun Mathias, le patriarche de l'église orthodoxe, devant plus de 1000 personnes. L'assistance s'est levée comme un seul homme lorsque les cercueils recouverts de drapeaux éthiopiens et portés par des généraux sont amenés dans la salle. De nombreux militaires se sont succédés pour saluer les longues carrières des deux hommes. À la fin de la cérémonie, M. Abiy, qui n'a pas pris la parole, a salué les deux cercueils qui ont ensuite été transportés à l'aéroport d'Addis Abeba, d'où ils seront transférés vers Mekelle pour leur enterrement dans leur région natale du Tigré.
En Algérie, des centaines d'étudiants et enseignants ont à nouveau défilé ce mardi à Alger. Ils réclament un changement de régime tout en dénonçant l'interdiction par l'armée du drapeau berbère dans les revendications identitaires de cette minorité, représentant environ un quart de la population algérienne. Au Maroc, la police antiterroriste a annoncé le démantèlement près de Marrakech d'une cellule composée de 4 membres affiliés au groupe État islamique qui planifiait des attaques dans le royaume et des produits chimiques utilisés dans la fabrication d'explosifs, des équipements électroniques, des armes blanches et des sommes d'argent ont été découverts dans une ferme. En Égypte, le ministère de l'Intérieur annonce un coup de filet contre 19 entreprises accusées d'appartenir à la confrérie des frères musulmans, considérées comme organisations terroristes, et de financer un complot contre l'État et ses institutions.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le reste du monde, le président américain Donald Trump a nommé Stephanie Grisham. Jusqu'ici, aux côtés de la première dame, porte-parole de la Maison-Blanche, a annoncé aujourd'hui Melania Trump. Stephanie Grisham est avec nous depuis 2015. Le président et moi-même ne pouvons penser à personne de mieux pour servir l'administration de notre pays, a tweeté Madame Trump. Madame Grisham doit remplacer Sarah Sanders, qui quitte son poste fin juin et cumulera également les fonctions de directrice de la communication de la Maison-Blanche. Les États-Unis co-organisent à Bahreïn une conférence sur le volet économique du futur plan américain visant à résoudre le conflit israélo-palestinien en l'absence des Palestiniens. Les précisions avec Irénée Hermanoumbo.
La rencontre prévue à Manama, capitale du royaume de Bahreïn, doit rassembler des officiels, des membres de la société civile et des hommes d'affaires. Elle vise à persuader les Palestiniens confrontés à une sévère crise économique qu'un accord de paix avec Israël est possible. L'administration américaine entend lever plus de 50 milliards de dollars en une décennie pour l'économie palestinienne. Les questions politiques ne sont pas inscrites à ces discussions. Les Palestiniens refusent de prendre part à cette rencontre. Ils disent qu'ils n'ont pas été consultés et réclament la fin de l'occupation israélienne afin de constituer un État indépendant. Des milliers de Palestiniens ont manifesté en Cisjordanie occupée et dans la bande de Gaza contre cette initiative américaine. Le mouvement de protestation a été suivi dans plusieurs capitales comme Rabat, Beyrouth et même à Manama.
Jared Kushner, conseiller gendre du président américain Donald Trump, a jugé aujourd'hui que sa vision d'un règlement au Proche-Orient est l'occasion du siècle pour les Palestiniens, soulignant que le plan économique qu'il propose est une condition préalable à la paix. À l'ouverture de cette conférence, M. Kushner a en outre assuré dans son discours à l'adresse des Palestiniens qui boycottent la réunion, l'Amérique ne vous a pas abandonné. La tension est montée d'un cran ce mardi avec l'annonce par Téhéran qu'il comptait s'affranchir davantage de l'accord de 2015 sur le nucléaire. À partir du 27 juin, l'Iran a annoncé qu'il cessera de respecter les restrictions consenties sur le degré d'enrichissement de l'uranium convenu dans l'accord de Vienne. Il pourra en outre reprendre un projet de construction d'un réacteur à l'eau lourde à Arak, mis en sommeil par cet accord. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. On enchaîne sur le journal de la CAN avec Yacouba Ouédraogo.
Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue dans le journal de la CAN. Les derniers matchs de la première journée se jouent ce soir et c'est le groupe F qui entre en compétition dans la première rencontre en cours. Les Lions indomptables du Cameroun font face au Bissau guinéen. Le score est de 0 à 0 après 40 minutes de jeu entre Bissau guinéen et champion en titre. Dans le deuxième rendez-vous, les écureuils du Bénin joueront contre les Black Stars du Ghana. À 20h, temps universel, les Béninois sont optimistes et croient que leurs représentants peuvent jouer un bon coup face aux habitués ghanéens. C'est ce qui ressort du reportage d'avant-match de notre correspondant à Boïko au Bénin, Élisée Mpati.
Après avoir connu de bons résultats lors de sa préparation, le Bénin joue gros d'entrée contre le Ghana. Le fait marquant de ce match important pour les écureuils sera l'absence de leur maître à jouer capitaine Stéphane Sessayon pour cause de suspension. Mais comptant sur le collectif, l'état d'esprit et la générosité dans l'effort, les poulains de Michel Dissuet pourraient arracher leur première victoire à une CAN, même si l'adversaire en face est le grand favori. Bien que le Ghana semble supérieur sur le papier, le Bénin a quand même des arguments à faire valoir selon quelques confrères de la presse sportive béninoise.
La première raison de mon optimisme, c'est cette dernière victoire qu'on a eu face au Ghana dans le cadre des éliminatoires de la CAN de 2010, où le Bénin avait réussi à prendre les 3 points à domicile face au Black Star déjà à l'époque.
Les écureuils du Bénin peuvent compter aussi sur le collectif qui a prévalu lors des éliminatoires de cette CAN et fait un très bon match. Maintenant, il faut ces écureuils-là peuvent aussi surfer sur le problème de Capitana qui a secoué un peu la tanière ghanéenne et créer la surprise à Ismaïlia.
Ils doivent toujours se baser sur leur collectif parce que c'est l'un des points forts de cette équipe. Il y a l'état d'esprit, il y a la combativité, la générosité dans l'effort. Si ces 3 ou 4 points sont respectés, je crois qu'on peut attendre à une grande équipe du Bénin face au Ghana.
À noter que les deux équipes se sont affrontées 14 fois. La dernière victoire du Bénin remonte en 2009 à Cotonou. Élisée Rompati, VOA Afrique.
Il y avait 3 matchs au programme hier. Dans le premier qui a opposé la Côte d'Ivoire à l'Afrique du Sud, les éléphants l'ont emporté 1-0 devant les Bafana Bafana. On écoute l'unique buteur de la rencontre, Jonathan Kodja.
C'est mon rôle d'attaquant. Je sais que j'allais avoir des opportunités. La première, elle a été bien stoppée par le gardien de but. J'aurais pu mieux faire. Finalement, j'ai su marquer en deuxième mi-temps. Donc, je suis vraiment heureux. Je suis content pour mes coéquipiers. On est bien rentré dans la compétition et je pense qu'aujourd'hui, c'est l'essentiel.
En face, les Sud-Africains le reconnaissent, la mission était compliquée devant les champions d'Afrique 2015.
C'est un match difficile pour nous parce que Côte d'Ivoire, ils sont forts, il y a des bons joueurs, et ils jouent aussi à des grosses équipes. Mais nous, maintenant, on a besoin d'oublier avec 7 matchs, on concentre pour un match prochain.
Lebo Matiba, attaquant sud-africain, toujours hier, l'un des pays novices de la compétition. La Mauritanie a fait son baptême de feu dans une Coupe d'Afrique des Nations, dans la douleur, face au Mali, dans le groupe E. Les Aigles ont été sans pitié devant les Mourabitounes, battus 4-1. Écoutons les réactions de quelques fans maliens à Bamako.
Le Mali a fait montre d'une grande solidarité dans le jeu et puis surtout du don de soi. On sent que ces jeunes-là ont vraiment une ambition très forte pour leur pays, quoi. Ils peuvent aller loin. Moi, je vois même le Mali aller cette année jusqu'en finale au moins.
Ça augure de bonnes perspectives pour notre football, malgré la crise au sein de la FEMAFOOT, quoi.
L'attaque a fonctionné, vraiment de l'espoir. On compte sur eux.
Des supporters maliens au micro de Siaka Traoré, notre correspondant à Bamako. À l'inverse, la Tunisie, autre équipe attendue dans ce groupe E, a fait une petite entrée dans le tournoi en étant tenue en échec par l'Angola. Les Aigles sont déçus de ce résultat, comme le fait savoir leur milieu de terrain vedette Wabi Kazri.
On a pas fait un bon match, ça arrive. C'est le football, on a pas mis tous les ingrédients pour gagner le match. On n'a pas fait les efforts nécessaires, on les a trop laissés jouer. Non, pas surpris, mais surpris de notre match, oui.
Côté angolais, ce match nul est bon à prendre.
On savait que ça allait être difficile. D'ailleurs, on a souffert, mais on a tout donné. On savait que si on allait avec notre cœur, avec notre courage, on pouvait attirer le résultat de toute manière. Jusqu'à maintenant, il n'y a eu que beaucoup de résultats compliqués dans cette CAN. Donc, on a été jusqu'au bout.
Boitou Mananga Jonathan, défenseur donc des Palancas Negras de l'Angola. Voilà, c'est tout pour le Journal des Sports.
De retour avec vous, Morgane Guerriec. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Place au dossier du jour. L'Organisation internationale pour les migrations a annoncé ce mardi avoir secouru, la semaine dernière, plus de 400 migrants dans le désert du Niger. L'OIM indique que près de 20 000 migrants ont été secourus dans le Sahara depuis avril 2016. Récemment, les migrants secourus sont souvent des ressortissants ouest-africains expulsés d'Algérie vers le Niger. Pour plus d'explications, Abdourahmane Dia a joint le chef de mission de l'OIM au Niger, Martin Weiss.
Le gros de nos opérations peut se résumer en parlant d'aider et de sauver les gens qui arrivent depuis l'Algérie sur un endroit qui s'appelle Point Zéro, 12,5 kilomètres de petit endroit qu'on appelle Assamaka, et le seul poste frontalier entre le Niger et l'Algérie. Et là, 90% de tous les migrants qu'on appuie et qu'on aide et qu'on sauve.
Alors, ce sont des migrants qui ont été expulsés d'Algérie vers le Niger?
C'est vrai, c'est correct, exact.
Et
exact.
Abandonnés à eux-mêmes dans le désert?
C'est exact.
Quand même, 20 000 personnes secourues depuis 2016, c'est beaucoup. Qui sont ces migrants? De quelle nationalité ils sont pour la plupart?
Les statistiques, c'est une bonne question. La grande majorité, ce sont des ressortissants de la CEDEAO. D'ailleurs, dans les statistiques normales, on exclut les Nigériens. Pourquoi? Pas complètement, mais parce qu'il y a en parallèle, il y a un système qu'on appelle les convois officiels. Ce sont des rapatriements organisés entre l'Algérie et le Niger, spécifiquement pour les Nigériens. Donc, pour répondre à votre question, l'année dernière, 2018, il y avait le 38%, tous ceux qu'on a appuyés, c'était des Maliens. Et 30 et quelques pourcents, je ne me souviens plus, 33-34%, c'était des Guinéens, de Guinée-Conakry. Selon nos informations, et moi j'ai parlé personnellement avec ces gens, pas tous évidemment, mais avec beaucoup, géographiquement ça ne fait aucun sens que ces gens du Guinée-Conakry ou du Mali soient entrés en Algérie à travers le Niger. Donc là il y a un point d'interrogation.
Et qu'en est-il aujourd'hui de la route vers la Libye? Est-ce qu'il y a moins de trafic, si on peut dire ainsi?
Oui, on peut dire ainsi. Et en ce qui concerne nous, les gens qu'on secourt, la vaste majorité sont des gens qui vont dans la direction opposée, soit ils viennent du nord pour rentrer chez eux dans le sud.
Martin Weiss, joint au Niger.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Félix était étudiant dans une université du Brésil lorsqu'il décide de tenter l'impossible, traverser l'Amérique centrale pour se rendre aux États-Unis, son pays de rêve. Mais pour le jeune homme de 24 ans, c'est un rêve qui lui a déjà coûté beaucoup de souffrances et de sacrifices. Arzuma Compaoré lui a tendu son micro dans le cadre de notre série « Témoignages d'immigrants ».
Pour quitter le Brésil, il faut prendre l'avion ou le bus. Il faut arriver à Rio Branco. À partir de Rio Branco, il faut payer les taxis pour arriver au Pérou. À partir du Pérou, si tu as des documents du Brésil, tu peux facilement entrer au Pérou. Mais si tu n'as pas des documents, donc il faut payer. Il faut payer les gens, les passeurs. Il y a deux groupes de gens. Il y a d'autres personnes qui sortent du Brésil. Il y a d'autres personnes qui viennent directement de l'Afrique. Et ils préfèrent prendre l'avion parce qu'il y a les free visa, le visa gratuit au niveau de l'Équateur. Beaucoup de gens, ils descendent là-bas, ils viennent là-bas. On se croise, beaucoup de gens se croisent à partir de la Colombie. De tout le monde se croise là-bas, vous commencez. La Colombie, pour traverser Turbo vers Capo Ghana, il faut prendre quoi, les bateaux, genre canot rapide. Vous allez payer $35 pour traverser dans ce bateau. Maintenant, quand vous n'avez pas les papiers d'immigration, vous serez obligé de payer $250 pour traverser. Maintenant, quand vous traversez, vous allez faire pendant 4 heures du temps dans l'océan. C'est vraiment dangereux. Vous allez voir des gens en train de prier. J'ai vu des mamans en train de pleurer, en train de prier. Donc, j'ai compris que donc, les gens veulent perdre la mort. Quand vous traversez ça, vous allez maintenant traverser la forêt. On appelle ça le jungle. Le jungle est des Dariennes. J'ai vu des Ghanéens, des Camerounais, parce qu'ils ont l'habitude de marcher seuls. Ils font 3 jours, 4 jours en forêt. Maintenant, les gens qui amènent des familles, il y a d'autres qui font 10 semaines, 10 jours. 8 jours, ça dépend. Et quand vous passez la forêt, donc tout le monde se sent qu'ils se sont errés, donc il a déjà accompli une grande partie de son voyage. Après la forêt, vous arrivez au Panama. Le Panama nous a gardés pendant presque un mois et demi. On dormait dans des conditions difficiles. On vous recevait dans des camps de militaires. Il y a un groupe d'armée qui s'occupe des frontières, Senafran. C'est un fonds qui veut dire Service National des Frontières. À partir du deuxième camp, c'est l'immigration et les militaires qui travaillent en collaboration. Ils vous amènent dans un camp. C'est un camp nouveau. Les gens qui ont passé avant, ils n'étaient pas passés dans ces camps. Par rapport à notre parcours, c'était le meilleur endroit qu'on a passé. Nicaragua, c'est les calvaires encore. Il faut payer 150$ à l'immigration pour passer. Même si vous avez 149$, on ne peut pas vous laisser passer.
Comment vous arrivez au Nicaragua?
Quand vous arrivez dans toutes les frontières, il y a toujours des gens. On appelle les passeurs. Ils viennent là, ils vous proposent. Non, donnez 1$, 5$, 10$, ça dépend. Quand vous arrivez à Tapachula, calvaire en Corse. Tapachula, c'est la frontière Mexique-Guatemala. Il y a un état là, l'état de Chiapas. La ville, c'est Tapachula. Là-bas, vous restez dehors, même pendant un mois. Le jour où tu auras la chance, tu entres.
Tu rentres où?
À l'immigration mexicaine. Il y a des gens qui ont fait un mois dehors.
Et quand ils sont dehors pendant ce temps, comment ils font pour vivre?
D'autres qui louent. Il y a des gens qui ont de l'argent. Je peux donner l'exemple des Camerounais, l'Ouest Afrique. Ils ont beaucoup d'argent parce qu'ils se préparent. Il y avait une rivière. Si vous traversez seulement la rivière, donc vous êtes déjà aux États-Unis. C'est comme s'ils ont mis des radars dans l'eau. Vous allez voir les patrouilles américains, Border Patrol. Ils arrivent avec même les sauvetages.
On est aux États-Unis en ce moment.
États-Unis. On libère les gens qui sont en famille. On laisse les gens qui sont célibataires.
Voilà, témoignage de migrants, notre série réalisée par Arthuma Compaoré.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Au Nigeria, l'industrie cinématographique Nollywood dépend depuis de nombreuses décennies de la distribution locale. Mais ces dernières années, les producteurs sont passés de films à petit budget vers des longs métrages de grande qualité. En 2015, le géant américain Netflix a commencé à diffuser des films nigérians, mais une pauvre connexion Internet et des coûts élevés ralentissent la diffusion au Nigeria. Un reportage depuis Abuja de Timothy Obiezu, rendu par Lionel Gaïma.
L'actrice et réalisatrice nigériane Happy Juliet fait du cinéma depuis de nombreuses années. Elle a produit beaucoup de films à petit budget pour compenser les faibles paiements des distributeurs locaux et les pertes dues au piratage. Maintenant, elle se concentre sur la qualité, espérant que son film sera projeté sur des écrans internationaux.
Nous, les cinéastes, nous avons souffert et souffrons encore entre les mains de ces distributeurs. Car je ne vois aucune raison de travailler pour l'argent. Tout vient de moi. Et vous voulez m'arnaquer?
Nollywood, la production cinématographique nigériane, a eu finalement la reconnaissance mondiale, se classant au deuxième rang en termes de volume de production après l'Inde et son Bollywood. Ainsi, les cinéastes nigérians réduisent leur dépendance à la distribution locale. Sidney Diala est producteur.
Il n'y a aucun moyen pour que Netflix, Iroko ou quelque chose de ce genre puisse avoir mon film sans que je le leur donne. Cela veut dire que j'ai collecté de l'argent auprès d'eux avant de leur permettre de le mettre en ligne.
Donc pour les cinéastes nigérians, éliminer le soi-disant intermédiaire ou distributeur locaux n'est qu'une partie de la solution. Le pauvre accès à Internet et ses coûts élevés au Nigeria font que les téléspectateurs ont toujours du mal à accéder aux films. Ngozi Okoli, Iroko TV.
Cela nous a gênés au début, mais encore une fois, cela nous a poussés à sortir des sentiers battus. Pour relever ce défi, nous avons donc décidé d'aller au-delà des data, ne plus insister sur l'aspect téléchargement en ligne et nous concentrer à créer une app. En plus de cela, nous avons également créé des kiosques. Le kiosque permet aux consommateurs de choisir et télécharger des films.
Malgré une croissance rapide en termes de pénétration de l'Internet, l'Afrique reste au dernier rang avec seulement 35,2% de la population utilisant l'Internet. Au cours des dernières années, le gouvernement nigérian a permis à de nombreux fournisseurs de haut débit de vendre les data bon marché. Mais rien n'y fait, car les millions de cinéphiles dépendent toujours des distributeurs locaux, une pratique qui favorise le piratage.
Abdourahmane Dia avec vous dans Washington Forum. Cette semaine, nous nous penchons sur les défis du football africain. Alors que la fête du ballon rond bat son plein en Égypte avec la première Coupe d'Afrique des Nations à 24, la CAF, la structure en charge du football africain, est minée par des affaires de corruption et de harcèlement sexuel visant son président. Le football serait-il malade de son leadership sur le continent ? L'Afrique est-elle allée trop vite vers une CAN à 24 ? Comment aider les championnats locaux à relever leur niveau ? Rendez-vous ce jeudi à 19h, temps universel sur VOA Afrique. Vous pouvez réagir sur notre page Facebook.
C'est dans les années 1600 que les musulmans ont commencé à s'installer aux États-Unis. De la côte atlantique à la région du Midwest, ils ont laissé des traces. Dans les États du centre, où les musulmans ne sont pas très nombreux, il y a des jalons historiques de leur présence. Et c'est le cas dans la ville de Ross, dans le Dakota du Nord, où une mosquée a été construite dans les années 1920, devenant une des premières mosquées des États-Unis. Un reportage de Sadiq Houle, avec le récit d'Abdourahmane Dia.
Il y a quelques tombes dans cette prairie lointaine de Ross, une petite ville dans le Dakota du Nord. Les noms de musulmans et de non-musulmans y sont gravés.
Comme vous le voyez, mon père est né en 1889 et son nom était Abdullah. Puis Albert, il est venu dans ce pays. Beaucoup d'entre eux ont changé leur nom.
Richard Omar, un électricien à la retraite, n'est pas musulman, mais il vient ici pour s'occuper de la tombe de ses parents musulmans. Il veut aussi préserver une importante étape de l'histoire des musulmans aux États-Unis. Cette mosquée, au milieu de ces champs, a été fondée en 1928, ce qui en fait l'une des premières des États-Unis. À l'intérieur du petit bâtiment, on y trouve un tapis de prière. Il y a aussi les photos de personnes qui l'ont fondée.
Eh bien, il n'y a vraiment personne à qui parler.
Beaucoup de musulmans ont déménagé. D'autres ont changé de nom et même de religion. Jan Siebel, vérificateur de la mairie.
La vérité est que les gens sont venus ici et voulaient une nouvelle vie.
Jan Siebel nous dit que la population générale a diminué ici après le déclin des industries agricoles et pétrolières. Elle dit qu'il n'y a plus de musulmans connus, mais que les souvenirs de la mosquée perdurent.
Nous avions l'habitude de jouer là-bas tout le temps, mais à un moment, ça commençait à devenir trop délabré et dangereux.
La mosquée s'est effondrée dans les années 1970, mais a été reconstruite en 2004 dans l'espoir de garder son histoire vivante. En 2018, le cimetière adjacent a été ajouté au registre national des lieux historiques en tant que symbole de l'histoire religieuse aux États-Unis. Aujourd'hui, cet endroit attire de plus en plus de visiteurs. C'est le cas de Mouadin Sharif.
C'est le lieu de naissance de l'islam en Amérique. C'est ici qu'est née la première mosquée.
Pour les non-musulmans comme Richard Omar, cette mosquée et ce cimetière font partie intégrante de l'histoire de sa famille et des États-Unis.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler et participer en live en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h et 21h, temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h, temps universel sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
C'est la fin de cette édition. À la mise en onde, Michel Joseph. À la présentation, Morgane Guiriec. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook. Rendez-vous également sur notre site internet voafrique.com pour l'actualité 24h24. Au revoir.
VOA Afrique, les infos. À Washington.
Avec vous en